oblige à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. Elles qui ont combattu pour l'Évangile avec moi, ainsi qu'avec Clément et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Et la paix de Dieu qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi et que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique et le Dieu de la paix sera avec vous. Jusqu'ici la parole de Dieu. Voici quatre scénarios fictifs, toute ressemblance à la réalité probablement fortuite. Alors, premièrement, Marie-Christine et Jean-Philippe sont tous les deux leaders d'un groupe de jeunes dans une église en région parisienne. Marie-Christine est étudiante en lettres à la Sorbonne. Jean-Philippe travaille déjà comme jeune cadre chez Areva à La Défense. Et les deux ont à cœur le partage de leur foi avec leurs amis non-croyants. Alors, le groupe de jeunes se réunit le vendredi soir à l'église et typiquement, il y a un moment d'enseignement, il y a un repas. Alors, Marie-Christine est frustrée parce qu'elle pense que c'est pas le genre d'événement auquel elle peut vraiment inviter ses amis non-croyants. Parce que pour elle, il faudrait peut-être des études un peu plus poussées, un peu plus intellectuellement affûtées. Par contre, Jean-Philippe est frustré parce qu'il aimerait que le groupe bouge un peu plus. Et au lieu de passer autant de temps à l'église, dans les locaux de l'église, il aimerait sortir et faire des événements ailleurs. Alors Marie-Christine et Jean-Philippe, bien qu'ils soient des leaders de ce groupe ensemble, n'arrivent pas à s'entendre là-dessus. Et franchement, ça jette un froid sur le groupe, sur les rencontres du groupe. Et ça démotive les autres. Qu'est-ce que vous feriez pour les aider? Alors, on va voir un peu plus en étudiant ce passage, qu'est-ce qu'on peut dire. Alors, deuxième scénario. Alors, c'est pas que Thomas soit déprimé. On peut pas vraiment dire qu'il est dépressif. Mais c'est quelqu'un qui voit toujours le côté négatif des choses. À la cantine avec ses collègues, il aime discuter. Mais inéluctablement, il finit par râler. Ah, le temps est mauvais. Ah, le chef, le salaire, les collègues, le monde politique, les syndicats. Et peut-être au fond, il se désespère un peu de son lot dans la vie. Alors, il est content d'être chrétien. Il n'a aucune intention de faire marche arrière. Mais ce monde, son lot dans la vie, peut-être par rapport à d'autres, tout ça le déçoit un peu. Alors, quand il entend le pasteur de son église parler de la joie le dimanche matin, il a tendance à se dire, quelle naïveté. Ce pasteur ne connaît pas grand-chose de nos difficultés. Alors, comment faire pour encourager Thomas? On va voir ce que ce passage a nous dire, à lui dire. Alors, troisième scénario, Marie-Julie est très diplômée. HEC, ENA, Polytechnique. Elle a tout fait dans la vie. Elle est une femme très accomplie. Au travail, le problème pour elle, c'est plutôt les autres. C'est difficile de trouver des collaborateurs compétents. Et c'est stressant au travail. Il y a le PDG qui veut voir des résultats. Et il compte sur elle. Il y a une pression énorme sur elle. Et ce stress envenime un peu les relations dans son bureau. Et Marie-Julie a parfois du mal à contrôler ses émotions. Elle a perdu plus d'un secrétaire qui n'en pouvait plus. Au moins le dimanche, elle se décompresse. Et à l'église, elle retrouve cette paix, cette sérénité à laquelle elle aspire. Oh, par contre, elle est quand même un peu gênée. Elle est gênée un peu par ce décalage entre sa vie d'église et sa vie au travail. Elle veut vivre sa foi au travail. Elle veut témoigner. Mais ce stress la dépasse. Elle ne sait pas comment faire. Alors, quel conseil est-ce qu'on va donner à Marie-Julie? Alors, ce passage a peut-être quelque chose à nous dire, à lui dire. Quatrième scénario. Jean-David. Jean-David travaille en banlieue parisienne dans une usine de fabrication d'automobiles. Ça fait plus de 20 ans qu'il travaille à la chaîne. Il a encore 10 ans à faire avant la retraite. Alors, en ce moment, l'entreprise tourne plutôt bien. Mais il y a eu des moments au passé où ils ont dû faire des plans de restructuration. Ils ont licencié pas mal de personnes. Et Jean-David est de nature plutôt nerveuse. C'est quelqu'un qui craint toujours le pire. Il craint qu'il aille lui-même être licencié un jour. Et ça, il en parle avec ses collègues. C'est même un cauchemar récurrent qui revient dans ses rêves et qui l'empêche parfois de dormir. Côté finance, il essaye scrupuleusement de faire des économies au cas où. En fait, toute sa vie semble être dominée par cette anxiété, par cette crainte. Et ses collègues, qui sont plutôt bons vivants, l'ont remarqué. En fait, ils ont commencé à léviter un peu à la cantine parce que, franchement, c'est un peu lourd. Et même sa famille trouve ça un peu difficile parce qu'ils aimeraient qu'il lâche un peu de lest et ils aimeraient peut-être partir un peu plus en vacances. Alors Jean-David prie constamment que le Seigneur protège son poste. Alors qu'est-ce que l'apôtre Paul dirait à Jean-David? On va voir un peu plus dans ce passage. Dans cette section de la lettre de Paul, cette lettre qu'il a écrite à ses amis bien-aimés, à Philippe, l'apôtre Paul veut les encourager à vivre leur foi et à la mettre en pratique de manière publique. Dans cette lettre, Paul veut nous montrer comment une connaissance de Dieu notre Père, comment une connaissance de Jésus-Christ notre Sauveur, nous change profondément pour nous équiper à des partenaires ensemble dans l'annonce de l'Évangile. Alors nous, on arrive ici dans ce passage vers la fin de cette lettre. Et Paul est comme un bon tisserand qui veut tisser les fils qu'il a développés dans sa lettre pour que nous puissions avoir une vue d'ensemble de comment cette connaissance de Dieu notre Père, comment cette connaissance de Jésus peut nous aider à vivre de manière pratique. Et ma prière ce matin, c'est que ce passage bien compris, bien enraciné dans nos cœurs par Dieu le Saint-Esprit, nous aide chacun à avoir des réflexes bibliques, des réflexes évangéliques, des réflexes justes face à l'inquiétude, face aux soucis de la vie, face à la frustration de la vie quotidienne, face à la déprime. C'est pour moi-même, j'ai vraiment besoin de ce rappel. J'ai besoin que le Saint-Esprit renouvelle ma pensée dans tous ces domaines. Et on voit dans cette lettre qu'il y a des enjeux. Le souci de Paul dans cette lettre, c'est l'annonce de l'Évangile. Il voit en ses Philippiens ses partenaires dans l'annonce de l'Évangile. Mais Paul sait que si cette Église va annoncer cette bonne nouvelle, il faut que cette bonne nouvelle, cette annonce soit motivée par l'Évangile, par l'amour de Dieu, Et il faut aussi que cette annonce de l'évangile soit accompagnée par une vie qui témoigne de cet amour. Il y a des enjeux. Et plus important encore, on a vu ça tout au début de la lettre, parce que Paul aime ses Philippiens, parce que Paul aime Dieu, il veut que leur vie soit remplie du fruit de justice qui chante un hymne à la gloire de Dieu. Alors, on va nous attaquer vraiment à ce passage. J'ai eu du mal à structurer le passage cette semaine, mais on va juste suivre les exhortations de Paul. Il donne plusieurs exhortations. Et dans chacune de ces exhortations, il nous montre comment vivre l'évangile de Jésus-Christ. Comment vivre la paix que Dieu nous a donnée en Jésus-Christ. On va faire ça verset par verset. Et ça commence avec une exhortation à penser comme Christ. Au verset 2 à 3, Paul nous parle d'un conflit entre deux femmes, Évodie et Saint-Tiche. Alors c'est assez surprenant que Paul les nomme, nommément comme ça, dans une lettre publique. Peut-être la nature du conflit était très publique dans l'Église, peut-être ça a jeté un froid dans l'Église. En même temps, on peut en déduire que Paul estimait ces deux femmes capables, assez mûres, pour entendre cette exhortation publique. Ce qui est à noter en passant, c'est l'estime que l'apôtre Paul a pour ces deux femmes. Ces femmes ont combattu pour l'Évangile, avec Paul. Paul les considère comme faisant partie de ses collaborateurs, ses partenaires dans l'Évangile. Alors on voit dans d'autres écrits de l'apôtre Paul que Paul réserve les ministères d'anciens et d'enseignement de la doctrine, des ministères qui encadrent l'Église aux hommes. Mais il ne faut pas que ça soit appliqué, que cet enseignement soit appliqué d'une manière qui empêche les Évodies et les Saint-Tiches d'être pleinement collaboratrices dans l'Évangile. Et je pense, dans cette assemblée, qu'on voit bien cet équilibre avec beaucoup de femmes bien engagées dans l'œuvre de l'Évangile. Alors Paul encourage son fidèle collègue, on ne sait pas trop qui c'était, à aider ces femmes à être en plein accord dans le Seigneur. Et c'est vrai que parfois, nous avons besoin d'un frère, d'une sœur, qui nous aide à retrouver le bon chemin, à revenir à l'essentiel de l'Évangile. C'est vrai qu'on a parfois peur d'être pris pour arrogant, d'être pris pour quelqu'un qui se mêle des affaires des autres, si on vient en aide à quelqu'un. Mais parfois, on a besoin de ça. Paul ne dit pas s'il est d'accord avec l'une ou l'autre. L'enjeu n'est clairement pas doctrinal ou éthique, parce que c'est vrai que dans ces cas-là, souvent Paul n'hésite pas à dire exactement ce qu'il pense, n'hésite pas à prendre parti. En fait, il a dû y avoir une différence d'avis qui a dégénéré en clash. En quelque sorte, si je ramène ça à notre scénario fictif, c'est un peu comme ce conflit entre Marie-Christine et Jean-Philippe dans le groupe de jeunes. Comment décider que faire? Quelle stratégie adopter? Comment mieux atteindre les amis non-croyants? Alors ça serait tellement tentant de rejoindre le débat et de se ranger d'un côté ou de l'autre. Mais ici, Paul pose un principe de base, le principe de la pensée de Jésus-Christ. Et Paul le tisserand nous ramène à un fil qu'il a déjà tissé au chapitre 2, où il a utilisé la même expression. Là, il a dit « Rendez-moi ma joie parfaite en vivant en plein accord ». C'est la même expression. Ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Ne faites à rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Et ensuite, Paul a parlé de comment Jésus, en toute humilité, malgré toute sa divinité, s'est fait humble serviteur, allant jusqu'à mourir sur la croix. Alors, qui a raison, Marie-Christine ou Jean-Philippe? J'ai peut-être un avis. J'ai peut-être une préférence. Je suis peut-être plus d'accord avec l'un ou l'autre. Mais là n'est pas l'essentiel. Car Paul veut que nous vivions d'une manière qui s'accorde avec l'Évangile. Et pour y arriver, il faut que les cœurs de Marie-Christine et de Jean-Philippe soient tout simplement épris de l'humilité de Jésus-Christ. Il faut qu'ils suivent Jésus. Jésus en cherchant à comprendre dans l'humilité le point de vue de l'autre, en mettant les intérêts de l'autre un peu devant les leurs. Sans doute un groupe de jeunes animés par de tels leaders qui se ressemblent de plus en plus à Jésus-Christ. Un groupe qui vit cette paix, cette humilité, aura encore plus de facilité à partager cette foi, la foi en Jésus-Christ, quelle que soit la stratégie adoptée. Au verset 4, Paul répète deux fois cette exhortation qui nous a déjà donnée au début du chapitre 3. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Encore une fois, le maître tisserand est en train de revenir sur un thème important dans cette lettre. Le fil, le thème de la joie. Et Paul veut que nous ayons une joie profonde dans le Seigneur. Et que cette joie déborde dans notre vie. Que cette joie déborde dans notre témoignage. Il veut vraiment que Jésus soit le trésor de notre vie, si bien que nos cœurs jaillissent de nos cœurs. Nous l'avons dit il y a deux semaines, l'apôtre Paul n'est pas un homme méchant ou cruel. S'il nous exhorte à nous réjouir dans le Seigneur, il nous montre comment. Au chapitre 3, il nous a parlé du bien suprême qu'est la connaissance de Jésus-Christ. Il nous a parlé de sa propre joie de se retrouver, de se trouver en Jésus-Christ, avec une justice qui vient de Dieu, une justice qui n'est pas par ses œuvres, par ses sacrements, par sa religiosité, mais simplement la justice que Dieu nous donne. Un cadeau que Dieu nous donne. Un cadeau que Dieu nous donne grâce à Jésus à la croix, parce que c'est là qu'il a pris notre péché à notre place. Et en échange, il nous a donné sa vie parfaite, sa justice parfaite. Si bien que si on a mis notre confiance en lui, Dieu peut nous déclarer complètement, parfaitement acceptable à ses yeux de manière permanente. Et c'est ça ce qui fait que Jésus est notre joie. C'est comme ça que Jésus nous fait entrer dans la présence de notre bon Père Céleste de manière permanente. Et c'est cette paix-là en Jésus qui nous conduit à la joie en lui. Si je pense à notre ami fictif Thomas, avec ses mots tendres pour son pasteur naïf, à ce Thomas qui voit le verre à moitié plein, ce Thomas qui ne cesse de râler, qui pense que son lot dans la vie est un peu injuste, à la lumière de ce que Paul a dit dans cette lettre, on réalise que son bonheur ne viendra pas d'un changement de situation. Son bonheur, sa joie ne viendra pas d'un changement de situation sociale, mais d'une réalisation de ce qu'il a déjà en Jésus-Christ. S'il ressasse ses mensonges sur son lot dans la vie, il va forcément broyer du noir et râler. Mais s'il bénit le Seigneur de ce qu'en lui, par la foi, il a cette justice. Il est parfaitement acceptable aux yeux de Dieu. Il est un enfant bien-aimé d'un Père créateur. Tout ça va changer sa perspective. Et je pense que ses collègues à la cantine vont voir un autre homme. Un homme rayonnant de joie. Oui, un homme qui va sans doute passer aussi par des épreuves. Ça ne veut pas dire que la vie soit facile. Mais ils vont voir un homme qui a un contentement. Un contentement en Jésus-Christ. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Alors, la logique du verset 5 n'est pas forcément facile. Nous lisons « Que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. » J'ai tendance à voir un lien entre ces deux phrases, car la perspective du retour de Jésus façonne notre manière de mener la vie quotidienne. Paul parle d'une attitude où on est doux, on est conciliant, on est bienveillant, on est patient. Si nous allons partager la bonne nouvelle de Jésus ensemble, individuellement, nous avons besoin de cette douceur patiente, bienveillante, conciliante. Parce que c'est pas la peine d'annoncer le Sauveur avec dureté, avec sévérité ou avec impatience. Cette douceur patiente, bienveillante, conciliante, conciliatrice peut-être, oui c'est ça, est donc précieuse. Et Paul dit ici que nous l'avons déjà. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Ou peut-être cette douceur se met parfois en veille, parfois elle se cache. Le stress du moment, la compétitivité au travail, à la fac, peut-être le manque de politesse d'autres conducteurs sur la 86, ou le manque de compétences de nos collaborateurs. Ces choses-là peuvent avoir un effet négatif sur notre douceur, la douceur que Dieu nous a donnée, cette patience que le Seigneur nous a donnée. Mais cette douceur, nous l'avons reçue en Christ, celui que nous attendons des cieux, parce qu'il nous a déjà traités avec douceur, il nous a déjà traités avec bienveillance, avec patience, lorsque nous étions loin de lui, lorsque nous étions encore ses ennemis. C'est à ce moment-là qu'il nous a conduits à lui, dans la douceur, dans l'amour, dans la patience. Et on a goûté à sa bienveillance. Et on va goûter de manière pleine à cette douceur lorsqu'il revient. Et tout ça nous fait penser bien sûr à Marie-Julie, à notre diplômée de HEC, qui vit ce stress énorme au travail, qui est sous pression et qui a du mal à vivre cette douceur, cette patience qu'elle aime tant, qu'elle chérit tant à l'Église. Quel conseil est-ce qu'on peut lui donner? Alors on pourrait dire plein de choses. Peut-être la logique de ce verset l'invite à fixer ses yeux sur Jésus-Christ, sur son retour. Jésus est déjà là avec elle. Il est pas loin, il est là avec elle au bureau, et il reviendra la rechercher des cieux. Nous savons que, comme il a déjà fait, il la traitera en ce jour-là avec une douceur, avec une patience, avec un amour bienveillant extraordinaire. Et si elle peut garder cette espérance à l'esprit, cette espérance de ce jour de douceur en quelque sorte, ce jour de patience, c'est à ce moment-là qu'elle peut donner cette patience, cet amour, cette douceur à ceux et celles qui l'entourent. Pas simple, mais il faut qu'elle fixe son regard sur Jésus. Et si elle fait ça, on peut penser que ça sera vraiment un signe de la beauté de l'Évangile pour ses collègues. On a tendance, sous le stress, et lorsqu'on est loin de l'Église, lorsqu'on est loin de nos frères et sœurs, à vivre la foi de manière cloisonnée. L'Évangile, l'adoration, c'est le dimanche matin. L'efficacité, la compétitivité, ça c'est le travail, ça c'est la semaine. Mais petit à petit, le Saint-Esprit renouvelle notre pensée pour que même dans ces lieux où les valeurs de l'Évangile ne soient pas prisées, on peut les vivre. On peut vivre ces valeurs en parole, en acte, de manière claire et avec audace. Au soit dit en passant, il pourrait être sage pour Marie-Julie de réfléchir à si le stress de son travail est juste trop pour elle et si elle ne devrait pas chercher autre chose. Mais ça, c'est pour elle de voir devant Dieu, de chercher sa face, de chercher sa sagesse. On est faible. Parfois, il y a des choses qui nous empêche de vivre notre foi. Et on ferait mieux de changer les circonstances. Mais au fond, c'est notre pensée qui a besoin de changer. Et qu'en est-il de Jean David, si anxieux par rapport à son avenir? Tellement anxieux qu'il commence à faire le vide autour de lui. L'apôtre Paul veut le ramener à l'enseignement de Jésus. l'enseignement que Jésus nous a donné sur la montagne, le serment sur la montagne. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Oh, qui se fait jamais de soucis? Qui n'a jamais passé une nuit blanche à cause des inquiétudes? Je pense qu'on peut sans doute tous, en tout cas peut-être la majeure partie des personnes peuvent s'identifier avec Jean-David. Pas forcément pour les mêmes choses, pas forcément pour les mêmes domaines de la vie. Et si souvent, très souvent, cette paix nous fait défaut. La paix de Dieu nous fait défaut. Comment parler de notre foi à nos amis quand nos inquiétudes montrent de manière flagrante que notre confiance en Dieu est très limitée? C'est juste. Mais ici, dans ce passage, Paul ne parle pas de manière lourde, de manière culpabilisatrice. Ça ne sert à rien. Tout au long de cette lettre, il a voulu montrer Jésus. Qui il est, ce qu'il a fait. Parce qu'il veut que nos cœurs soient comblés en lui, satisfaits de lui. Que nos cœurs se réjouissent en lui. Et que par lui, parce qu'il a accompli à la croix, nous réalisons à quel point nous avons un accès libre auprès d'un Père qui nous aime. À quel point nous pouvons avoir une confiance d'entrer dans la présence de notre bon Père Céleste pour déposer nos fardeaux. Dans la présence de ce Père qui est bon, dans la présence de ce Père qui est souverain. Alors Jean-David prie constamment que Dieu protège son poste au travail. Alors je ne vais pas dire qu'il a tort de faire ça, mais je pense qu'il peut aller plus loin. Paul parle ici dans ces versets de reconnaissance, d'action de grâce. Jean-David peut remercier son Père pour l'accès qu'il a auprès de lui grâce à Jésus. Il peut se réjouir en Jésus, dans la prière. Il peut remercier son Père de ce que son nom est déjà dans le livre de la vie. Il peut remercier son Père pour sa fidélité jour après jour. Peut lui remercier pour le poste qu'il a, pour le temps que le Seigneur lui a déjà accordé de faire ce travail. Et renouveler dans son cœur, renouveler dans sa perspective, renouveler dans son image de Dieu, Jean-David pourrait confier en toute simplicité, humblement, lui confier sa famille, ses besoins, son besoin d'un travail. Peut lui remettre son avenir dans l'assurance qu'il a un bon Père Céleste qui assure, un bon Père Céleste qui est souverain, qui l'aime et qui prend soin de lui. Et c'est pour ça que nous avons une promesse dans ce passage. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je pense que c'est sûr, on a tous du mal dans ce domaine parce que parfois nos inquiétudes nous font flipper. Mais à chaque fois, nous avons besoin de revenir au pied de notre bon Père Céleste. Nous avons besoin d'avoir une image de lui qui est renouvelée. Nous avons besoin de nous rappeler qu'il est là, qu'il est juste, qu'il est puissant. Et nous avons, grâce à Jésus, un accès libre auprès de lui. Et ensuite, Dieu nous donne cette paix en Jésus-Christ. Et Paul veut que nous vivions la paix de Dieu, la paix du Père. Cette paix est attractive, cette paix est attirante, elle est en fait le contexte de l'annonce de l'Évangile. Alors, je ne vais pas trop m'attarder sur les derniers versets de ce passage, parce que je pense qu'on y voit sensiblement la même chose, dite d'une autre manière. Là, Paul dit, enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange, ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de paix sera avec vous. Comment vivre avec le Dieu de la paix? Méditez l'Évangile. Méditez Dieu lui-même, ce Père qui nous aime, ce Père qui a donné son Fils, ce Fils qui s'est donné, qui n'a pas cherché ses propres intérêts, mais qui s'est donné pour nous. Méditez ce qui découle de l'Évangile. Et c'est fort de cette connaissance-là, avec ces vérités profondément ancrées dans nos cœurs, que nos esprits peuvent commencer à mettre en pratique l'Évangile. Mettre en pratique tout ce que nous avons appris dans cette lettre auprès de Paul, tout ce que nous avons vu dans la vie de l'apôtre Paul. C'est le fait de nous soucier des intérêts des autres, comme Christ. C'est le fait de nous réjouir en Christ plutôt que de chercher notre joie ailleurs. C'est le fait de nous montrer doux les uns envers les autres, comme Christ. C'est le fait de faire confiance à Dieu notre Père, même quand la vie est difficile. J'ai dit au début que ma prière pour ce matin, c'est que ce passage bien compris, bien enraciné dans nos cœurs, bien enraciné par le Saint-Esprit lui-même, nous aide chacun à avoir des réflexes bibliques, des réflexes justes, des réflexes évangéliques face aux conflits, face aux inquiétudes, face aux soucis, face à la déprime. Face à ce genre de choses, c'est tellement facile de chercher des stratégies. On veut changer nos circonstances. Et c'est vrai, parfois il faut faire ces choses-là. Mais avant toute chose, ce dont nous avons le plus besoin, c'est de connaître Jésus. C'est de connaître notre bon Père Céleste, d'être enraciné dans cette connaissance. Et ensuite, de vivre pour lui, de vivre autrement, de vivre d'une manière qui s'accorde à l'Évangile, qui s'accorde avec cette connaissance de Dieu. Et tout ça sera un hymne à la gloire de notre bon Père Céleste. Et tout ça sera le contexte aussi de l'annonce de l'Évangile. Ces fruits, cette manière de vivre, c'est le contexte de notre annonce de l'Évangile à la maison, au travail, à la fac, à l'usine. On va prier que le Seigneur nous aide cette semaine à avoir nos yeux fixés sur Jésus, avoir nos yeux fixés sur lui, Dieu, celui qui est saint, qui est juste, qui est honorable, qui mérite d'être loué, et ensuite de vivre d'une manière qui lui plaît. Prions. Notre bon Père Céleste, nous voulons te remercier pour ce que tu nous as donné en Jésus. Naturellement, Seigneur, on n'est pas capable de vivre autrement. On est égoïste. Naturellement, on commence à chercher notre joie ailleurs qu'en Jésus, dans des puits qui ne donnent rien. Naturellement, on est râleur. On voit le côté négatif des choses. Et nous avons besoin d'être renouvelés dans notre âme, dans notre connaissance. Merci de ce que tu as fait l'essentiel pour chacun qui a mis sa confiance en Jésus. Tu nous as donné un cœur nouveau. Tu nous as donné la nouvelle naissance. Tu nous as fait asseoir avec Jésus. Tu nous as donné une vie de ressuscité. Mais on est encore dans ce monde, avec un pied dans ce monde, et on râle, on voit le côté négatif. Père, renouvelle notre pensée par cette connaissance de Jésus. Donne-nous une vision plus glorieuse de qui il est. Donne-nous d'avoir des cœurs comblés en lui. Donne-nous d'avoir des cœurs qui se réjouissent en lui, pour que nous puissions vivre pour toi. Cette semaine, au travail, à la fac, à l'usine, à la maison, en quartier, dans les transports. Donne-nous d'avoir cette douceur que tu nous as montrée. Donne-nous de cette patience et donne-nous aussi cette confiance pour que nous puissions vraiment vivre cette paix attractive, rayonnante. Tu vois qu'il y a des personnes qui ont des soucis lourds dans l'Église, c'est pas facile. Et merci à notre Père de ce que tu es présent auprès d'elles. donne-leur de voir de manière renouvelée ta grandeur et donne-leur ta paix selon ta promesse. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.